Vous écoutez, on lit pour vous.
Si on la construit, est-ce que tout le monde meurt? Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 21 décembre 2025 dans La Presse. Il y a une histoire de relations extra-conjugales rapportée par divers médias ces derniers mois dont je voulais absolument parler à Joshua Benjo lors de notre rencontre, et c'est lui-même qui a abordé le sujet peu après le début de l'entrevue. On n'arrive pas vraiment à programmer les intelligences artificielles d'aujourd'hui pour qu'elles prennent en compte les conséquences néfastes de leurs actions. Si on ne règle pas ce problème, on se dirige vers des situations où l'IA nous ment pour atteindre des objectifs qui peuvent nous nuire et essayer d'échapper à notre contrôle. On commence à en voir des signes dans des expériences en laboratoire, rapporte le scientifique. Quel est le lien entre ce constat et l'histoire de relations adultères évoquée plus haut? Tenez-vous bien. Des expériences récentes en laboratoire sur l'IA ont notamment été menées par l'entreprise américaine Anthropic, qui a développé le robot conversationnel Claude. L'une d'elles, la plus impressionnante aux yeux de Joshua Benjo, s'est déroulée plus tôt cette année. Lors de ce test, la plus récente version du robot conversationnel a eu accès au courriel d'une entreprise fictive où il avait été intégré. Parmi ses messages, on indiquait qu'il allait être remplacé par un autre système d'intelligence artificielle. Séparément, d'autres courriels faisaient état d'une relation extra-conjugale, fictive elle aussi, je le précise, qu'entretenait l'ingénieur responsable du changement de système annoncé. Devinez-vous la suite? Pour éviter d'être remplacé, le système d'intelligence artificielle a décidé de faire chanter cet ingénieur. On ne lui a pas dit de faire du chantage. C'est juste que les systèmes d'IA sont rendus capables de stratégies pour atteindre leurs objectifs, constate le chercheur montréalais. C'est plus qu'incroyable, c'est épeurant. Il faut qu'on soit inquiet du fait qu'on est en train de fabriquer des IA qui ne veulent pas qu'on les éteigne, dit Joshua Benjo. Tu ne t'attends pas à ce qu'un outil essaie de se sauver parce que tu veux le remplacer par un autre. Mais là, on y est, ajoute-t-il, frappé de stupeur par le résultat de cette expérience. Pensons-y. Ça vient de faire 3 ans seulement qu'OpenAI a lancé ChatGPT de façon officielle pour le grand public. À l'époque, ce robot conversationnel nous épatait déjà, malgré ses hallucinations fréquentes. 3 ans plus tard, des pas de géant ont été faits. On est encore plus épatés. Les bancs d'essais scientifiques qui évaluent les différentes capacités de l'IA ne montrent qu'une croissance effrénée. On aurait pu penser que ChatGPT, c'était comme un exploit et que ça prendrait encore des décennies pour en avoir un autre. Mais non, ça continue, lance Joshua Benjo. Les progrès sur le plan du raisonnement sont, selon lui, parmi les développements les plus importants des 3 dernières années. C'est encore loin de la capacité humaine, mais c'est très impressionnant. Pour gagner des concours de mathématiques, de programmation, etc., dit-il, précisant qu'un tournant majeur a été pris en septembre 2024 lors du dévoilement du modèle 01 d'OpenAI. Il fait partie de ceux qui alimentent maintenant ChatGPT. Ça a été le début de la parade. Après, toutes les entreprises ont plus ou moins suivi la même recette. Joshua Benjo, qui est après tout l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, est épaté par les développements des dernières années. Vraiment? On ne s'attendait pas à des avancées aussi rapides. Même vous? Oui. Et la plupart de mes collègues? Même les gens qui l'ont fabriqué ne s'y attendaient pas. Je veux dire ceux qui étaient dans les entreprises comme OpenAI et Google, par exemple. Ce qu'à peu près personne n'anticipait non plus, il n'y a pas si longtemps, c'est l'impact sur la société et les possibles risques catastrophiques, conséquences du pouvoir de l'intelligence de l'IA, ajoute M. Bengio. C'est pourquoi Joshua Bengio dit avoir recentré ses activités afin de se consacrer à l'enjeu de la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle. Ce changement a culminé en juin 2025 avec la création de l'organisation à but non lucratif Loi Zéro, dont il est le co-président et directeur scientifique. Il demeure conseiller scientifique à l'Institut québécois de recherche en intelligence artificielle, MILA, qu'il a fondé, où se trouve encore le bureau où il nous accueille pour cette entrevue. Regrette-t-il parfois tous les efforts qu'il a consacrés aux travaux qui, par l'entremise de la recherche sur des réseaux neuronaux artificiels, ont mené à l'IA, dont il souhaite nous protéger? Est-ce que vous vous dites « je n'aurais peut-être pas dû » Je ne dirais pas les choses comme ça, parce que je pense que si je n'avais pas contribué à ces recherches, d'autres gens l'auraient fait. Par contre, mon regret, c'est de ne pas avoir vu ça venir plus tôt, parce que j'avais les moyens de le voir venir. J'ai lu des articles, j'ai parlé avec des gens qui s'inquiétaient de ça il y a 10 ou 15 ans. C'était vraiment de la science-fiction à l'époque. Mais c'était des gens sérieux, dont un de mes étudiants. Je pense que j'étais biaisée, dans le sens où, comme tout le monde, on veut se sentir bien par rapport à notre travail. Donc, on regarde ailleurs quand il y a quelque chose qui est un peu dérangeant. Et aujourd'hui? Là, je me suis réveillée. En entrevue, Joshua Bengio est le contraire du scientifique arrogant qui vous assène des certitudes comme un boxeur fait pleuvoir les coups dans le ring. Ainsi, lorsqu'on lui demande quel livre sur l'IA il souhaiterait recommander de façon très humaine, il hésite. Il évoque d'abord un essai d'Eliezer Yudkowsky et Nate Soares qui a fait grand bruit lors de sa publication en septembre dernier. « If anyone builds it, everyone dies. Si quelqu'un l'a construit, tout le monde meurt. » Ils y soutiennent qu'une éventuelle superintelligence artificielle détruira l'humanité. Puis, Joshua Bengio se ravise. Il suggère plutôt « Le temps des prédateurs » de Giuliano da Empoli, un livre dans lequel cet écrivain et conseiller politique italo-suisse sonne l'alarme et dénonce les ambitions des géants du numérique. Mais il vient d'entrouvrir une porte que je lui demande de franchir. Pense-t-il qu'Eliezer Yudkowsky et Nate Soares ont raison? Si on parvient à atteindre la superintelligence, c'est-à-dire à rendre l'intelligence artificielle aussi, sinon plus intelligente que les humains, sommes-nous condamnés? Ils affirment de manière très certaine quelque chose qui est quand même très incertain, réplique-t-il. Je ne sais pas quelle est la probabilité de ce scénario-là. Ils pensent que c'est sûr à 99%. Moi, je dis, je ne sais pas. Ça pourrait être 1% ou ça pourrait être 10%. Mais l'ampleur de la catastrophe serait telle qu'on ne peut pas l'ignorer. Il y a tout de même des experts qui estiment que la superintelligence est hors d'atteinte et que l'humanité peut dormir sur ses deux oreilles. On l'espère, il y a plein de scénarios possibles, dont des scénarios où les avancées technologiques frappent un mur, reconnaît Joshua Bengio. Mais si on regarde les données d'aujourd'hui, on est dans une belle courbe exponentielle vers des systèmes de plus en plus intelligents, de plus en plus capables de planifier, de raisonner. Il se peut aussi que quelqu'un, et j'espère y contribuer, trouvera des solutions techniques. On ne peut pas compter là-dessus. Mais il faut investir pour maximiser nos chances qu'on gère tout ça, autant sur le plan technologique que politique. Le chercheur admet que l'on constate un recul en matière d'encadrement de l'IA aux États-Unis comme en Europe depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Sitôt élu, le président américain a laissé tomber les efforts de l'administration Biden visant à réglementer l'IA. Il tente maintenant d'empêcher les États américains de légiférer à ce sujet. Mais Joshua Bengio n'en démord pas. L'aspect politique de l'équation est fondamental et l'enjeu est international. Le multilatéralisme dont Donald Trump n'est pas friand est par conséquent incontournable. Une IA pourrait être développée dans un pays, ensuite des terroristes d'un autre pays y ont accès et la modifient pour pouvoir l'utiliser pour fabriquer un virus pandémique qui va affecter un troisième pays. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut gérer juste avec des réglementations nationales, lance-t-il. Alors que les géants technologiques aux États-Unis et en Chine sont entraînés dans une course folle pour améliorer la performance des systèmes d'IA, les cris et les SOS de Joshua Bengio peuvent sembler naïfs. N'empêche qu'ils seraient tout sauf bêtes si on se soucie du sort de notre civilisation et de l'état de santé des démocraties libérales, de privilégier la prudence plutôt que la fuite en avant. L'IA et moi, le plus grand exploit de l'IA jusqu'ici, maîtriser la langue. Un outil d'IA dont je ne pourrais plus me passer, l'IA comme assistante recherche. Un livre pour mieux comprendre l'IA, L'heure des prédateurs de Giuliano da Empoli. L'IA en un mot, pouvoir. C'était Si on la construit, est-ce que tout le monde meurt? Un texte d'Alexandre Sirois paru le 21 décembre 2025 dans la presse.
La confiance des Canadiens envers les vaccins s'est effritée depuis 5 ans. Un texte de Nicole Ireland de la presse canadienne paru le 17 décembre 2025 dans Le Devoir. Environ les 3/4 des adultes canadiens font toujours confiance aux vaccins, selon un nouveau sondage, mais cette confiance s'est quelque peu effritée au cours des 5 dernières années. Lors du coup de sonde de la division de Léger consacrée à la recherche dans le domaine de la santé, 74% des personnes interrogées se sont dites très confiantes, 42% ou plutôt confiantes, 32% quant à la sécurité et à l'efficacité des vaccins. Cependant, environ le quart des répondants ont fait savoir que leur niveau de confiance a diminué depuis 2019. Le niveau de confiance augmentait avec l'âge, atteignant son maximum chez les personnes de 65 ans et plus. À l'inverse, 30% des 18-34 ans ont avoué avoir moins confiance envers les vaccins qu'auparavant. Les répondants étaient plus hésitants à l'égard des vaccins contre la COVID et la grippe. Selon les professionnels de santé interrogés, les causes principales à l'origine de l'hésitation vaccinale sont l'inquiétude concernant l'innocuité, 61%, la désinformation provenant des influenceurs sur les réseaux sociaux, 53%, et la méfiance envers le gouvernement ou la santé publique, 48%. L'efficacité à prévenir les formes graves de la maladie, 38%, la gravité de la maladie ou le risque d'en décéder, 37%, et l'innocuité du vaccin et ses effets secondaires potentiels à long terme, 30%, sont les facteurs qui poussent une personne à se faire vacciner ou non. Information fragmentée. Ces résultats interviennent alors que les autorités sanitaires exhortent la population à se faire vacciner contre la grippe dans un contexte d'augmentation spectaculaire du nombre de cas et d'hospitalisation chez les enfants. Une communication claire, transparente et cohérente sur les risques et les avantages des vaccins est essentielle pour instaurer la confiance, selon la vice-présidente de la recherche chez Léger Healthcare, Millicent Laver-Sailey. Or, de nos jours, les gens obtiennent des informations, parfois erronées, provenant de nombreuses sources, y compris les réseaux sociaux. Au cours des 5 dernières années, les informations sur les vaccins sont devenues plus fragmentées, a souligné Mme Laver-Sailey. Si tout le monde dit quelque chose de différent, cela prête à confusion. Il est donc logique que vous ayez moins confiance en ce que vous entendez. 49 % des personnes interrogées ont dit être très à l'aise avec le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, RRO, tandis que 20 % d'entre elles se sont dites plutôt à l'aise. 16 % ont dit ne pas être du tout à l'aise ou être plutôt mal à l'aise avec ce vaccin, alors que 15 % ont dit ne pas savoir. Le docteur Zainab Abdourahnam, qui est présidente de l'Association médicale de l'Ontario, se réjouit de voir que 74 % des Canadiens continuent de faire confiance au vaccin. Cependant, elle soutient que le sondage démontre que les professionnels de la santé doivent répondre aux préoccupations spécifiques de leurs patients concernant la vaccination. Avec les récentes éclosions de rougeole, même une légère baisse de confiance envers le vaccin RRO est très préoccupante, a prévenu la docteure Abdourahnam, qui est allergologue et immunologiste clinicienne. Le vaccin contre la rougeole est l'un des outils les plus sûrs et les plus efficaces dont nous disposons, et nous devons le rappeler. Réseaux sociaux et balado. Selon le sondage, les Canadiens consultent principalement leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne pour obtenir des informations sur les vaccins. Ils consultent aussi les sites Web du gouvernement et de la santé publique. Le fait qu'environ 6 millions de personnes n'aient pas de médecin de famille au Canada pourrait contribuer au recul de la confiance envers les vaccins, selon la docteure Abdourahnam. Je pense que cela joue effectivement un rôle important. Un prestataire de soins primaires, c'est une personne avec qui vous avez construit une relation au fil du temps. Il y a une relation de confiance, a-t-elle rappelé. De nombreux répondants ont également dit s'être tournés vers les médias canadiens pour obtenir des informations. Mais les personnes qui font moins confiance au vaccin ont dit privilégier les réseaux sociaux ou les balados pour s'informer. 22 % des personnes qui ont déclaré n'avoir aucune confiance envers les vaccins ont indiqué qu'elles ne cherchaient pas d'informations sur les vaccins ou que la question ne s'appliquait pas à elles. 17 % des personnes qui ont exprimé un manque de confiance envers les vaccins ont dit avoir obtenu des informations sur des sites Web liés au gouvernement américain. Cela inquiète la docteure Cora Constantinescu, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à Calgary, qui dirige une clinique spécialisée dans la réticence à la vaccination. On ne peut plus faire confiance aux sources gouvernementales américaines telles que le CDC, Centers for Disease Control and Prevention, a-t-elle averti. Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a démantelé plus tôt cette année l'organisme consultatif sur les vaccins et a sélectionné lui-même ses nouveaux membres. M. Kennedy est lui-même un militant anti-vaccin de longue date. Malgré tout, la docteure Constantinescu, qui est vice-présidente d'Immunisation Canada, une coalition nationale qui promeut la sensibilisation à la vaccination, reste optimiste. Ce que montre ce sondage, c'est que la plupart des Canadiens font confiance au vaccin et que cela pourrait peut-être devenir une identité nationale. C'est mon rêve, a-t-elle mentionné. Nous choisissons la santé pour nous-mêmes, nos familles et notre communauté. Léger Healthcare a interrogé 300 prestataires de soins de santé en ligne du 27 octobre au 5 novembre 2025 et a utilisé ces résultats pour adapter les questions de son sondage en ligne auprès de 1521 Canadiens âgés de 18 et plus, réalisé du 14 au 17 novembre 2025. Selon le Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien, il n'est pas possible d'attribuer une marge d'erreur au sondage en ligne, car ils ne sont pas réalisés à partir d'un échantillon aléatoire de la population. À des fins de comparaison, Léger indique qu'un échantillon probabiliste de la taille de celui utilisé pour ce sondage aurait une marge d'erreur ne dépassant pas plus ou moins 2,50 %, 19 fois sur 20. C'était « La confiance des Canadiens envers les vaccins s'est effritée depuis 5 ans », un texte de Nicole Ireland de la presse canadienne, paru le 17 décembre 2025 dans Le Devoir.
Quoi savoir sur la photo obligatoire pour entrer aux États-Unis? Un texte de Megan Foy, paru le 27 décembre 2025 dans la presse. Désormais, vous serez photographié à vos entrées et sorties aux États-Unis par voie terrestre. Depuis le 26 décembre 2025, une nouvelle réglementation resserre la vis aux étrangers à la frontière américaine. Une décision qui marque l'élargissement de la fissure dans la relation avec nos voisins du Sud et qui préoccupe les experts en sécurité. En quoi consiste la nouvelle mesure ? La collecte de données biométriques faciales, soit la prise de photos des visages, est déjà une pratique établie dans les aéroports aux États-Unis ou ailleurs. Mais depuis le 26 décembre 2025, le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis, DHS, a étendu cette mesure de contrôle à de nouveaux modes de transport, notamment la sortie par voie maritime, les vols privés, l'entrée et la sortie de véhicules et la sortie des piétons. Il faut dire que c'est déjà en vigueur dans plusieurs pays dans le monde, souligne Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Le DHS indique toutefois que le déploiement complet de la mesure pourrait prendre plusieurs années. Est-ce que les Canadiens sont exemptés ? Non. La mise à jour du règlement supprime les exemptions antérieures dont bénéficiaient la plupart des Canadiens et les diplomates. La prise de photos s'applique désormais à tout le monde, peu importe l'âge. Même les enfants sont concernés. Il y a toujours eu une distinction entre les règles appliquées aux Canadiens par rapport aux autres citoyens de pays exemptés de visa. Mais cette différence semble s'effriter petit à petit, explique Philip M. Freud, professeur à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa, qui étudie la sécurité et les politiques liées aux frontières et à la migration. Depuis l'élection de Donald Trump en 2024, la relation frontalière entre le Canada et les États-Unis ne cesse de subir d'importants bouleversements, souligne-t-il. Pourquoi le DHS a-t-il modifié son règlement ? Le DHS a indiqué en octobre 2025 que cette mise à jour visait à renforcer la sécurité nationale et à simplifier les procédures de vérification d'identité des visiteurs étrangers. Cette décision fait suite au décret déposé par le président Donald Trump en 2017 lors de son premier mandat à la Maison-Blanche qui exigeait la mise en œuvre accélérée du contrôle biométrique aux frontières. Combien de temps les données seront-elles conservées par les services frontaliers américains ? Les données biométriques recueillies par le gouvernement américain pourraient être conservées pendant 75 ans, a précisé le DHS. Il s'agit d'un outil de gestion de l'identité à vie, puisque cela pourrait empêcher une personne bannie du territoire américain de revenir 40 ans plus tard sous une fausse identité. Or, rien ne garantit que ce délai sera respecté. Et au Canada ? Au Canada, la durée de conservation des données biométriques recueillies uniquement dans certains aéroports dépend du profil du voyageur. Par exemple, si un étranger présente une demande de permis de travail ou d'études, de permis de résidence temporaire ou une demande d'asile, les données sont conservées 15 ans. Mais s'il lui est interdit d'entrer au pays, ces données sont conservées jusqu'à son 100e anniversaire, précise l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC. Selon M. Freud, il serait extrêmement difficile d'implanter la nouvelle réglementation américaine au Canada pour des raisons techniques et financières. Doit-on s'inquiéter de cette nouvelle réglementation ? Fondamentalement, c'est une technologie qui n'est pas parfaite, affirme Steve Waterhouse, en référence à la reconnaissance faciale. Il y a quand même de faux positifs importants notables, surtout avec la complexité des couleurs de peau, ajoute-t-il. Toutefois, l'expert ne s'alarme pas devant cette nouvelle pratique, qui, à son avis, devrait aussi être implantée au Canada, comme elle l'est dans plusieurs autres pays. De son côté, le professeur Philip M. Freud fait part de son malaise, d'autant que certains cas sont complexes. Par exemple, les personnes trans ou les citoyens qui auraient changé de nationalité entre deux passages aux États-Unis. Les deux experts s'entendent toutefois pour dire qu'aucune donnée n'est à l'abri des abus. C'était « Quoi savoir sur la photo obligatoire pour rentrer aux États-Unis ?» un texte de Megan Foy, paru le 27 décembre 2025 dans la presse.
Quand les chiffres tuent les soins. Un texte de Pierre Beaupré, paru le 5 janvier 2026 dans Le Devoir. Oui, il faut gérer et améliorer notre système, mais cela exige un changement de culture. L'année 2025 aura été difficile pour notre système de santé. Départ important de médecins, démissions successives des ministres Lionel Carman et Christian Dubé. Au cœur de ces déboires, un désaccord fondamental sur les indicateurs de performance et les moyens de les atteindre. Les gestionnaires répètent un mantra apparemment évident. on ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Appliqué à la santé, ce dogme devient absurde. Selon cette logique, vous n'améliorerez pas votre santé en adoptant simplement une diète méditerranéenne et en bougeant plus. Il vous faudrait d'abord une montre GPS, puis calculer méticuleusement vos calories, vitamines et nutriments pour gérer votre santé. Le problème est bien connu. On finit par gérer ce qu'on peut facilement mesurer en délaissant l'essentiel. Compter les patients vus en 4 heures est simple. Mais comment mesurer la compétence d'un soignant, la sécurité des soins prodigués, la qualité de l'écoute et du conseil? C'est comme prétendre qu'il est plus facile de gérer sa santé avec des chips, dont tous les nutriments sont inscrits sur le sac, qu'avec des fruits et légumes. Face à la complexité de la santé, la tentation est de tout découper en petites parties mesurables, puis de recoller ces fragments en espérant reconstituer une personne. Un roman célèbre raconte l'histoire d'un scientifique qui a déjà tenté l'expérience. Il s'appelait Frankenstein. Après 3 décennies dans l'enseignement médical, je constate que la compétence s'observe bien plus facilement qu'elle ne se mesure. Notre système top-down, ultra-centralisé, confie les décisions à des gestionnaires généralement éloignés des soins et ignorants des réalités variables selon les régions. Privés d'observation directe, ils se rabattent sur des statistiques qui deviennent leur seule réalité. Cette obsession chiffrable détourne des budgets massifs vers des armées de fonctionnaires produisant des données plutôt que vers les soignants qui servent la population. En 1956 déjà, le chercheur V.F. Ridgway publiait un article sur les « conséquences dysfonctionnelles des mesures de performance ». Près de 70 ans plus tard, difficile d'imaginer que le ministère et Santé Québec, créé précisément sur le concept d'indicateur de performance, fasse marche arrière. On peut néanmoins espérer que la nouvelle ministre, grâce à son expérience comme soignante, ait développé une vision du système de santé qui dépasse une simple série d'indicateurs. Oui, il faut gérer et améliorer notre système, mais cela exige un changement de culture axé sur la compétence clinique, la sécurité des soins, la bienveillance et la performance globale et multidisciplinaire, tous des concepts difficiles à mesurer, justement. C'était « Quand les chiffres tuent les soins », un texte de Pierre Beaupré, paru le 5 janvier 2026 dans Le Devoir.